Gaël Renard, Baby Boom sur Parenthèse, la seule radio 100% Talk Famille.
Bonjour et bienvenue dans Baby Boom. Aujourd'hui, je vous propose de parler disputes, portes qui claquent et dents qui grincent, gérer son couple en crise quand on est parent.
Témoignez, réagissez dans Baby Boom. 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr.
Les reproches qui fusent, les décibels qui montent, les mots qui dépassent la pensée, il nous arrive presque à tous de nous disputer. Non, mais c'est vrai, il y en a marre à la fin de faire toujours des concessions, surtout que ce sont toujours les mêmes qui les font, non? Enfin bref, tout cela n'aurait pas trop d'importance si ça se passait entre adultes, majeurs et vaccinés. C'est plus problématique lorsque les enfants assistent à ces scènes, à ce conflit ou à cette tension silencieuse. Et pourtant, on le sait, on le connaît, le fameux adage « pas devant les enfants, oui mais », c'est qu'on n'a pas toujours la présence d'esprit de sortir l'agenda pour programmer une engueulade. Alors que la guerre soit ouvertement déclarée ou qu'elle soit plus subtile, plus larvée, comment la ressentent les enfants à une époque où leurs petits copains, leurs copines, leur ont forcément déjà parlé de divorce ou de séparation? Qu'est-ce qui se trame dans leur petite tête?
Une expérience? Faites-la partager. Appelez maintenant Gaël Renard au 01 70 62 9000. 01 70 62 9000.
Gérer les plus ou moins grosses disputes lorsqu'on a des enfants, c'est le sujet donc de Baby Boom ce matin, un sujet sur lequel je vous propose de réagir. Alors si vous avez grandi avec des parents toujours en conflit, que vous vous souvenez pertinemment de ce que vous ressentiez à l'époque, venez nous raconter vos souvenirs, voilà, de petits enfants en train de gérer les conflits, voire les séparations de vos parents. Ou alors si vous êtes adulte, donc maintenant, que vous essayez de ne pas vous disputer devant les enfants, mais lorsque cela arrive, vous vous demandez s'il faut revenir sur la scène avec eux ou pas. Eh bien, appelez-nous pour poser la question aux invités, aux psychologues, psychothérapeutes, etc., qui nous accompagneront aujourd'hui. Ou alors, si vous envisagez, eh bien, de vous séparer, vous demandez comment l'expliquer aux enfants. Pareil, venez demander conseil. Profitez-en. 01 70 62 9000. 01 70 62 9000. Vous pouvez également, je vous le rappelle, nous envoyer vos messages sur le site de Parenthèse Radio. En remplissant le petit formulaire qui s'affiche sur l'écran, vous pouvez également participer au forum de l'émission. Donc, continuez à discuter entre internautes du sujet d'aujourd'hui. Et ceci même après l'émission. C'est tout simple, il suffit d'aller cliquer dans forum. Donc, 01 70 62 9000, vous l'avez noté, ou alors le www.parenthèseradio.fr.
Gaël Renard, Baby Boom, sur Parenthèse. La seule radio 100% Talk Famille.
Alors nous ferons un petit point tout à l'heure sur la littérature qui s'offre à vous et surtout aux enfants, les livres pour enfants qui traitent de séparation et de disputes du côté des parents. Si vous en connaissez, si vous avez comme ça des livres qui ont pu vous aider, n'hésitez pas à nous appeler aussi pour partager cette information. Tout de suite, un livre dont je voulais vous parler ce matin, et ça tombe bien, nous avons l'auteur qui nous accompagne, c'est La séparation, j'en parle avec mon enfant, paru chez Nathan. Un livre signé Elisabeth Darchy. Bonjour Elisabeth Darchy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc auteur de nombreux livres, et surtout un livre que peut-être nos auditrices et auditeurs ont lu, puisque c'était Ce bébé qui change votre vie, qui était paru chez Fleurus en 2002, un best-seller, pour ainsi dire. Et puis il y a ce livre, donc La séparation, que vous avez écrit avec Gérard Dechef. Donc vous êtes tous les deux psychologues. Vous êtes psychologue en maternité, thérapeute familiale, enseignante également. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Parce que c'était la continuité de ce que vous aviez déjà écrit jusqu'alors. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un manque de ce côté-là?
Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt spécialiste sur la famille en périnatalité quand arrive le bébé, mais ma formation de thérapeute familiale, comme celle de Gérard Dechef, fait qu'on entend beaucoup ces familles, même quand il y a un bébé qui arrive d'ailleurs, avec les aînés, des fonctionnements conflictuels, et on entend malheureusement aussi des séparations dans les familles, et on s'était aperçu que l'enfant, donc empathie quand c'est mal géré. Alors, c'est vrai que le couple souffre, et c'est très difficile à penser à son enfant à ce moment-là, mais c'est vrai que quand on lit, peut-être on pense, on est est un petit peu plus accompagné pour faire moins de dégâts auprès de son enfant. Mmh. Et on a voulu le mettre par écrit avec Gérard de Cherf.
Est-ce que le problème, c'est que parfois, oui, on y pense parfois peut-être un peu trop tard, quand soi-même, on commence un peu à y voir plus clair et on se dit, mais voilà, tout ce que moi j'ai encaissé, j'ai enduré, mes enfants l'ont encaissé et enduré aussi.
Tout à fait. Sur le coup, faut dire que ça fait souffrir, hein, des conflits, des peurs de la séparation, on est malmené comme ça dans un lien conjugal qui souffre et on est polarisé sur le conflit, sur la souffrance, et c'est vrai qu'on perd de vue un petit peu l'enfant parfois, alors que on devrait avoir dans sa tête dès le départ qu'il s'agit d'un problème d'adulte, et soulager son enfant d'ailleurs en lui disant écoute, c'est des choses qu'on va gérer en tant que grande personne, toi reste dans l'insouciance de ton enfance, on t'informera au fur et à mesure des choses, mais on essaye un petit peu de pas le faire rentrer. Mmh. Alors soit on pense pas à lui, soit des fois on l'utilise malheureusement en disant ton père est méchant, ta mère nous quitte, etc. On va se venger, ou alors on veut plus que l'enfant ait accès à l'autre parent, ou alors l'enfant, on dit, est pris en otage.
Pas toujours consciemment d'ailleurs, hein. Il y a des personnes qu'on peut voir comme ça de l'extérieur pour qui ça nous paraît évident, et si on essaie de leur en parler, de leur dire attention, l'enfant n'est pas un otage, ils sont absolument persuadés de protéger cet enfant.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'enfant, il est constitué de deux morceaux parentaux, à la fois la mère et le père, et que quand on abîme trop l'autre parent devant l'enfant, eh bien c'est l'enfant qu'on abîme. Hein. Mmh. Donc même si le père, ton père, il m'a fait du mal, mais bon, c'est quand même ton père et il faut savoir que c'est lui que j'ai choisi pour faire un enfant. On s'est aimé autrefois. Alors c'est difficile à se souvenir. On est fait des bons moments quand on est trop en conflit ou que la séparation s'installe. Mais il faut que l'enfant, en effet, puisse recevoir les bonnes choses aussi.
Mmh. C'est difficile de dire à un enfant, t'es l'enfant de l'amour, mais on s'aime plus. Donc j'imagine les répercussions. Je fais peut-être de la psychologie à 2,50 €, mais tu es l'enfant de l'amour, mais aujourd'hui on s'aime plus, donc t'es plus l'enfant, quoi.
C'est pour ça qu'on a écrit un livre, pour pouvoir répondre aux questions de l'enfant. Hein. C'est la séparation, j'en parle avec mon enfant, et c'est pour ça que l'enfant, on lui fait poser les questions. Est-ce que papa m'aime toujours, même si vous vous aimez plus? Est-ce que je le verrai? Est-ce qu'il se divorce avec moi aussi? Toutes ces questions-là, c'est pas des questions à dessous, c'est des questions d'enfant. Et je pense que là, il faut y réfléchir deux fois avant d'agir comme ça, de façon brute, alors qu'il faut agir de façon éducative et posée avec son enfant.
Mmh. Donc on va continuer d'en parler ensemble, Elisabeth Darchy, et de voir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, les écueils à éviter. Je voudrais accueillir notre second invité. Bonjour, Yolande Ganac-Mayanob. Merci. Bonjour. D'être avec nous. J'irai Yolande, j'ai le droit ?
Oui, bien sûr.
Vous êtes psychologue clinicienne, Yolande, et vous êtes auteur, co-auteur, des enfants parlent aux parents, chez Anne Carrière. C'est un petit peu, le même sujet que le livre d'Elisabeth Darchy. Vous êtes beaucoup servi de témoignages, c'est ça, pour constituer ce livre?
Oui, le livre ne part que de témoignages, c'est-à-dire que ma fille, qui est journaliste, avait été amenée à faire une enquête sur les enfants du divorce.
Je me disais bien qu'Anne-Laure Ganac devait avoir un petit rapport avec vous, hein. C'est la co-auteure de
ma fille. Et elle avait été amenée donc à Psychologie Magazine à faire une enquête sur les enfants du divorce, et on lui avait dit trouve des enfants pour qui ça s'est pas bien passé, d'autres pour qui ça s'est bien passé, etc., pour faire un article aussi élargi que possible. Et elle s'est aperçue dès les premiers témoignages que c'était très difficile de trouver des enfants qui disaient pour moi c'est super, ça s'est très bien passé, je suis content, etc. Même quand les parents nous avaient avertis, au départ c'était elle toute seule, lui disait mais chez nous, il n'y a pas eu de problème. Mmh. Alors elle m'a appelée, elle m'a dit, est-ce que tu connais, toi, des enfants dont les parents disent que ça s'est bien passé et que je pourrais interviewer? Et là, j'ai cherché, et puis j'en ai trouvé, qui m'ont dit, oh là, alors chez moi, ça a été parfait. Elle les a interviewés, et la parole des enfants n'a pas été du tout celle à laquelle on s'attendait, et n'était pas du tout le reflet de celle des parents.
C'est-à-dire que les parents s'étaient imaginé que tout était bien passé, finalement, et les enfants le ressentaient tout autrement.
Voilà. Et c'est à partir de là que, devant beaucoup, beaucoup de témoignages qu'elle a pu recueillir, Elle m'a dit, c'est bizarre, je ne trouve pas, j'arrive pas à en trouver, même quand ils ont 30 ans, 40 ans, ils ont 5 ans, n'importe quel âge qu'ils aient, il y a toujours une souffrance sous-jacente. Et c'est de là qu'est partie l'idée de son livre, avec Anne Carrière, avec qui elle a déjà publié des livres, et qu'on lui a demandé que ce ne soit pas simplement des témoignages, mais qu'il y ait une interprétation.
Mmh. Et c'est vous qui avez fait l'interprétation.
Voilà. Et elle m'a demandé si je voulais le faire, on a essayé, ça a marché. Donc c'est vraiment un travail à partir des témoignages d'enfants.
Mais dites donc, c'est pas
étonnant, et des témoignages qui reflètent finalement, elle en a eu beaucoup et elle a pris un panel de témoignages aussi représentatif que possible.
C'est pas très optimiste quand même de se dire que finalement il y a eu aucun enfant, qu'il soit devenu grand ou qu'il soit encore petit, qui dise bon c'est super, j'ai pu avoir mon chat par exemple. Je me souviens très bien d'une d'amie voilà qui s'était séparée. La première réaction de la petite fille, elle dit oh ben c'est cool, je vais pouvoir avoir un chat, disant bon ben voilà vous séparez mais maintenant vous avez plus le droit de me le refuser.
Voilà, mais c'est vrai que au départ ça peut paraître peut-être un petit peu négatif, pessimiste, mais il faut savoir quand même que les enfants ont une merveilleuse capacité d'adaptation, heureusement, par le jeu, par l'imaginaire, parce qu'ils sont insouciants, parce qu'ils ne voient pas l'avenir du tout comme les adultes, parce qu'ils sont dans le présent, en général ils vivent beaucoup le présent, et donc une fois que la grande souffrance est passée, finalement ils arrivent très bien à s'adapter. Et puis après quand ils sont adultes, ils se souviennent aussi des moments de souffrance. Et puis ils disent que eux, ils voudraient pas recommencer la même chose. On a rencontré aucun enfant, aucun adulte dont les parents avaient divorcé qui disait moi de toute façon je me marie mais ça m'est égal si je divorce. Mmh. Absolument aucun.
Pour lesquels ce sera un modèle de famille.
Ah oui. Mmh. Tous disent moi soit je ne me marierai jamais parce que j'ai trop peur de me séparer de mon conjoint, de ma conjointe, soit moi je ne veux absolument pas recommencer ce que j'ai vécu, le faire revivre à des enfants. C'est toujours dans ce sens-là. Donc il y a une trace de souffrance.
Bon.
Ça ne veut pas dire que les enfants sont à jamais meurtris.
Traumatisés.
Voilà, voilà. Il faut quand même rester optimiste avec les enfants. Mais nous, ce qui nous a étonnés, c'est le fait que le divorce soit aussi répandu. Puisqu'il y a pratiquement, dans certaines écoles, un enfant sur deux, un enfant sur trois de parents séparés. Et qu'il y ait encore quelque chose de l'ordre de la honte, de la souffrance. Les enfants se sentent différents, alors qu'ils ne devraient pas, puisqu'ils font presque...
Ils sont comme la moitié de la classe. On continue d'en parler ensemble. Appelez-nous, hein, si voilà ce que vous entendez, a des répercussions chez vous. Appelez-nous, on parle de séparation, mais on parle également de disputes. Hein, on demandera leurs avis à Elisabeth Darchi et Yolande Ganak-Mayanov, j'ai vraiment un peu de mal. Voilà, au sujet des disputes à gérer devant les enfants, que faut-il dire, que faut-il ne pas dire. 01 70 62 9000, on attend vos témoignages, on attend vos questions, vos réactions même, tout simplement. 01 70 62 9000.
Une expérience, faites-la partager. Appelez maintenant Gaël Renard au 01 70 62 9000. 01 70 62 9000. Libre parole sur parenthèse, la première radio 100% talk famille. Gaël Renard vous écoute maintenant au 01 70 62 9000. 01 70 62 9000.
Oui, appelez-nous. Pensez-vous que les séparations, les disputes ont forcément des répercussions sur les enfants lorsqu'ils en sont témoins? Les séparations, ils en sont forcément témoins. Les disputes, peut-être un peu moins. Est-ce que vous arrivez, vous, à ne pas vous disputer devant les enfants et à garder votre colère, votre rancœur pour le moment où ils sont couchés? Appelez-nous donc pour témoigner ce matin. 01 70 62 9000.
Témoignez, réagissez dans Baby Boom. 01 70 62 9000. Baby Boom! Et sur parenthèseradio.fr.
Il y a donc les couples qui se disputent silencieusement ou qui ne se disputent pas, qui sont parfois en conflit larvé. Il y a aussi les couples qui s'entendent bien, pour qui tout va bien, je vous rassure. Et puis il y a les couples un petit peu plus expansifs qui vont se disputer, qui vont casser la vaisselle, qui vont claquer les portes et s'envoyer des noms d'oiseaux. Et ceci, oui, parfois devant les enfants. Si vous avez vécu avec des parents comme cela, n'hésitez pas non plus à nous appeler ce matin à venir témoigner. Nous parlons donc de disputes et nous parlons également de séparation. Voilà, parfois lorsqu'on se dispute un peu trop, on en arrive à la séparation. Nous avons avec nous deux psychologues, Yolande Ganac-Mayanob, yes, j'y suis arrivée, qui est psychologue clinicienne, auteure avec sa fille d'un livre qui s'appelle « Les enfants parlent aux parents » chez Anne Carrière, un livre de témoignages, témoignages éclairés donc par son avis de psychologue. Et puis Elisabeth Darchy est également avec nous. Elle est psychologue en maternité, thérapeute familiale également. Elle s'est beaucoup intéressée au couple et notamment aux crises de couple également. Elisabeth, puisque c'était également un livre que vous aviez écrit, toujours avec Gérard Dechef d'ailleurs, « Crise familiale, violence et reconstruction ». Elisabeth Darchy, donc vous êtes auteur de « La séparation » dans la collection « J'en parle avec mon enfant » aux éditions Nathan. On vous a pas entendu, Elisabeth, tout à l'heure, lorsque Yolande nous disait, lorsqu'on écoute les enfants, quel que soit leur âge, il en reste toujours quelque chose, il en reste toujours une souffrance.
Bah, il reste des traces chez les enfants, mais il reste des traces de toutes les expériences de vie. Quand on a rentré à l'école, qu'on s'est séparé de sa maman la première fois, qu'on a perdu un ours, il y a des traces comme ça de toutes les étapes de la vie font des traces chez les enfants, puisque c'est des épreuves de séparation, de grandissement. Un enfant, il voudrait toujours rester dans le cocon, être comme ça, chouchouté tout le temps. Il va falloir aussi qu'il supporte certaines étapes. Alors, c'est vrai que l'épreuve de du conflit des parents peut être plus ou moins souffrant. Quand il est relativement bien géré, les traces, elles sont celles des épreuves de grandissement aussi parfois. Bien sûr que si les parents arrivent à gérer leurs conflits, à ne pas provoquer des éclatements familiaux terribles, les traces seront beaucoup moins fortes quand tout ça est mieux géré. Hein. Mmh. Mais il ne faut pas non plus se dire que les enfants n'ont jamais des traces de souffrance. C'est aussi les aléas de la vie.
Oui. J'étais un peu surprise, j'ai vu il y a sur une chaîne pour enfants une minute votre enfant expliquait aux parents quelque chose comme ça. Mon fils nous a fait découvrir ça cette semaine, et c'est Harry Fergan, donc que vous devez connaître, qui est psychologue aussi, qui est assez médiatique, qui intervient et qui expliquait là que faire en cas de perte du doudou. Et j'étais assez surprise de sa réaction. Il disait surtout: n'achetez pas un autre doudou pour le remplacer, c'est une épreuve de la vie, cela le prépare à d'autres épreuves, notamment une éventuelle séparation des parents, ou un deuil ou autre chose. Et ça m'a un peu étonnée. Vous êtes d'accord avec ça?
Alors, on peut quand même se demander à quel âge a lieu la perte du doudou, surtout.
Bah, si c'est à 18 ans, on s'en remet relativement facilement.
Oui, et puis même si c'est à 5 ans, 6 ans, c'est peut-être finalement comme une espèce d'acte manqué. C'était que l'enfant, l'égare, mais presque... pas volontairement, en tout cas inconsciemment volontairement, mais si c'est à 6 mois, et bien évidemment qu'il faut racheter notre doudou. Enfin, vous comprenez, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi.
Oui, oui. Je crois que les parents connaissent bien leur enfant et qu'il va falloir qu'ils s'ajustent en effet pour sentir que si c'est un moment d'expérience d'apprendre la séparation, ça prend les séparations. Et là, c'est un moment aussi où il faut accompagner l'enfant. C'est vrai que si on bouge tous les trous de séparation, qu'on fait comme si ça n'existait pas, l'enfant à 18 ans, il aura toujours besoin d'un doudou. Par exemple.
Et même à l'âge adulte, hein, j'en connais. Qu'est-ce qu'il y a alors en fonction des âges? Est-ce qu'il y a des mots différents? Bon, par exemple, on va parler dans un premier temps des disputes. Voilà, je me dispute avec mon mari, ça crie un peu, on se reproche des choses. Il se trouve que les enfants sont là. Bon, c'est pas intelligent, mais c'est parti tout seul. Est-ce que je reviens sur la dispute ensuite avec mon enfant, et ceci en fonction de son âge. Disons s'il a 2 ans, s'il a 5 ans ou s'il a 7 ans.
Alors, qui c'est qui répond?
on prend son ticket, comme chez le poissonnier. Yolande, à vous.
Je crois que ça dépend également de l'âge de l'enfant et du degré de la dispute, de la violence de la dispute. Il faut quand même savoir une chose, c'est que la dispute fait partie aussi de la vie. Un couple qui ne se disputerait jamais, on peut quand même se poser des questions, et c'est pas forcément plus sain pour l'enfant lui-même. Mais si l'enfant est en âge de comprendre, il faut lui dire tout simplement, il faut lui dire: tu sais, on s'est disputé, mais toi aussi tu te disputes avec tes meilleurs amis, avec tes meilleurs copains, avec ton frère, ta sœur, et pourtant tu les aimes beaucoup. Il doit comprendre que ça fait partie de la vie de couple, parce qu'on ne peut pas être d'accord tout le temps. Si on est passé à quelque chose de plus violent, Là, il faut quand même après essayer de reprendre ça peut-être d'une autre façon, parce qu'il y a tous les degrés dans la dispute. Ça va juste des mots que tous les couples peuvent avoir, jusqu'à se taper dessus ou à avoir des actes de violence, lancer le sac avec les affaires pour que la personne, le conjoint s'en aille. C'est tout à fait différent. Là, ça angoisse l'enfant et il est nécessaire de le reprendre après de manière calme.
Mais oui, de quelle façon, effectivement, voilà, si le conjoint lance le sac
Si on envisage une séparation, ou si l'enfant pense qu'il y a une séparation qui est envisagée parce qu'il a entendu les mots, eh bien, il faut le reprendre. Il faut, soit on envisage vraiment la séparation et on dit à l'enfant, écoute, on a besoin de faire le point, pour l'instant, ça ne va pas entre nous, on va voir un petit peu, on attend, ou on va se séparer pendant une semaine, etc. Il faut surtout parler à l'enfant de lui, de ce qu'il va devenir, c'est-à-dire lui dire, toi, de toute façon, tu seras toujours notre enfant à tous les deux, quoi que l'on fasse et quoi que l'on décide, même si on ne reste pas ensemble, il faut lui parler de lui, parce que la grosse peur qu'il a, c'est de ne plus être l'enfant des deux parents, de ne pas être aimé des deux, et puis d'être abandonné, enfin, la peur, le fantasme, si vous voulez, de l'enfant abandonné existe, même jusqu'à un âge assez tardif.
Oui, il est dans tous les contes de fées, donc révélateur de quelque chose. Oui. Elisabeth Darchy. Oui.
Alors, là, vous vouliez parler du couple, en effet, qui va mal, qui a des conflits, et avant de parler de la séparation, la conflictualité dans un couple, elle est présente dans le sens où, déjà, deux personnes sont différentes, hein, et dans les échanges, poser ses différences, exprimer sa position différente, c'est même très intéressant. C'est pour ça qu'un enfant, il doit apprendre, il doit savoir qu'en effet, la relation est faite de différences, de positions différentes. Et quand un enfant observe des parents qui peuvent petit à petit faire des compromis, à tour de rôle, se positionner comme l'autre, céder un petit peu, alors pas que ça soit toujours le même, c'est même la conflictualité dans un couple, là, vous vouliez savoir un petit peu si le conflit est souffrant, il est plutôt éducatif au départ. Hein, le conflit, la conflictualité, c'est en effet faire avec sa différence. Si dans un couple, un des parents fait toujours pareil, toujours ce que l'autre demande en se soumettant, c'est moins bon éducativement que de savoir, en effet, dire moi je pense ça, moi je pense autrement, et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va trouver une voie, une troisième voie, un compromis. C'est même éducatif pour l'enfant qui va apprendre à faire avec l'autre différent. Il va s'apercevoir, en effet, comme on disait, qu'avec ses copains, avec ses relations, et ben lui-même a des positions qu'il va falloir concilier avec l'autre. Mmh. On disait bien, en effet, que c'est quand ça devient, quand le conflit devient ingérable, que c'est là que ça devient plus très éducatif pour l'enfant et que ça peut le faire souffrir, puisque là, le fantasme, en effet, que deux êtres qui ne peuvent plus s'entendre se déchirent, ça résonne avec tout ce qu'il a vécu quand il était petit, quand il était en position opposée, notamment vers les 3 ans, quand il a eu cette position, cette crise d'opposition. Oui. Il a cru en effet perdre complètement son parent, hein, ou lui faire tellement de mal qu'il a eu peur de ne plus être aimé. Oui. Et là, quand il entend à nouveau tout ça, il a la peur de l'abandon, comme on disait tout à l'heure. Et c'est là qu'il faut un petit peu parler avec lui aussi.
Et trouver les mots peut-être grâce à vous et grâce à vos livres, Elisabeth Darchy et Yolande Ganac. 01 70 62 9000, je vous propose de marquer une courte pause. Si vous voulez nous appeler, si vous voulez voilà témoigner, nous dire comment vous les gérez, les disputes, est-ce que vous êtes arrivé de vous disputer en face de vos enfants, comment vos enfants ont-ils réagi, est-ce que vous êtes revenu sur la scène ensuite, appelez-nous, venez témoigner donc au 01 70 62 9000 ou sur le www.parenthèseradio.fr.
Une expérience, faites-la partager. Appelez maintenant Gaël Renard au 01 70 62 9000. 01 70 62 9000. Témoignez, réagissez dans Baby Boom. 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr.
On avait dit pas la vaisselle de grand-mère. Lorsque les portes claquent, que la vaisselle se casse et que les dents grincent, lorsqu'on se dispute, comment gérer son couple en crise quand on est parents? On en parle ensemble ce matin. Appelez-nous 01 70 62 9000. N'hésitez pas à nous en parler de vive voix. Vous avez commencé à nous envoyer des messages, c'est bien, mais vous pouvez également nous appeler. Alors pour les messages, c'est le www.parenthèseradio.fr. Nous allons commencer à aller lire ces messages et demander voilà, à nos deux invités ce qu'elles en pensent. Je vous les représente si vous venez juste de nous rejoindre. Elisabeth Darchy, tout d'abord, auteure de La Séparation, un livre écrit avec Gérard Dechèvre dans la collection J'en parle avec mon enfant, paru aux éditions Nathan. Elisabeth Darchy est psychologue en maternité et thérapeute familiale. C'est elle, mais oui, c'est elle qui avait écrit Ce bébé qui change votre vie chez Fleurus en 2002. Et puis, Yolande Ganac-Mayanob est également avec nous. Elle est psychologue clinicienne. Elle a écrit Les enfants parlent aux parents chez Anne Carrière, un livre qui regroupe plusieurs témoignages, des témoignages voilà, qu'elle a développés et pour lesquels elle a apporté ses observations de psychologue. Toutes les deux, je voudrais vous lire tout d'abord un mail de Valérie. Valérie qui nous parle donc de ses disputes. Elle nous écrit « Lorsque nous nous disputons avec mon mari, c'est comme si ça n'existait pas pour mon fils qui a 5 ans. J'ai essayé d'en parler avec lui, mais il n'écoute pas, il ne réagit pas. Que dois-je en penser ?»
En tout cas, c'est ce qu'elle croit. Hein, qu'il ne...
Yolande, oui.
C'est peut-être sa manière de se défendre aussi pour ne pas l'entendre. Il ne veut pas l'entendre. Il ne veut pas les voir se disputer peut-être. Ou alors il est très absorbé par, disons, son imaginaire, etc. Mais je pense qu'il y a plutôt une espèce de volonté plus ou moins délibérée de ne pas entendre, de ne pas voir pour ne pas en souffrir tout simplement.
Donc finalement il serait assez sage ce petit garçon en disant voilà c'est leur problème de grand, c'est leur problème de parents, ça ne me concerne pas.
Non, je pense que non. Je pense qu'il a peur et il préfère ne pas entendre. Parce qu'un enfant de 5 ans se rend très bien compte quand ses parents se disputent. Ou alors c'est devenu tellement quotidien qu'il n'y fait même plus attention. Mais il s'en rend compte.
Moi, je pense que Yolande a raison. C'est une façon de tenter de s'éloigner de quelque chose qui est sûrement très douloureux pour lui. Et donc, la non-réaction ne veut pas dire qu'il ne souffre pas.
Le fait qu'il ne veuille pas en parler ensuite lorsqu'elle essaye d'évoquer...
Oui, c'est pas forcément qu'on le force à parler. L'important, c'est qu'il entende en effet que d'abord, il ne faut pas qu'il se culpabilise, que ce n'est pas de sa faute, c'est des histoires d'adultes encore, on n'est pas obligé qu'il réponde. L'important, c'est de le soulager peut-être, hein, en lui disant qu'on est peut-être conscient, en effet, qu'il entend tout ça et qu'on voudrait que ça soit plus apaisé et qu'on va tenter, en effet, de résoudre les choses. Surtout, on va tenter de pas trop faire ça devant lui, ces scènes-là.
C'est pas facile, hein.
C'est pas facile. Les scènes, surtout si elles concernent l'enfant, parce qu'on dit que dans les conflits, on prend l'enfant en otage sans s'en rendre compte quand il est présent, en lui disant, bah tu vois, il entend tout ça, tu devrais pas. Et devant l'enfant, on le saisit comme si il nous soutenait, comme si il, même dans son silence, il attaquait l'autre. Vous voyez.
Donc, là, lorsque la dispute est provoquée d'une certaine façon par l'enfant, c'est souvent voilà, à cause de cela, à cause d'un conflit au sujet de l'éducation, le père a accepté le bonbon, la mère n'aurait pas accepté, voilà, et ça part un peu...
Oui, tout à fait. L'enfant, il a bien compris comment d'abord récupérer peut-être un des parents et pas l'autre, hein, du style oh bah oui, moi je vais céder à ton caprice ou je veux bien que tu aies le deuxième bonbon, le deuxième yaourt. Et donc l'enfant, de toute façon, il a des stratégies petit à petit où il est tellement mêlé dans le conflit qu'il va intervenir comme une troisième personne, un troisième partenaire dans le conflit. Et des fois, il va même exacerber le conflit pour pouvoir en récupérer un ou l'autre, par exemple. Et c'est vrai que les parents, quand ils ont bien compris que bon, c'est celui qui, j'allais dire, qui a parlé en premier, à moins qu'il y ait une maltraitance, à moins qu'il y ait un enfant battu, frappé, giflé, alors là on intervient.
Oui.
Et si c'est un enfant, si le parent accorde à l'enfant quelque chose et qu'on n'est pas d'accord, que l'autre parent n'est pas d'accord, bon, il peut même souligner, écoute, ton père a dit que tu pouvais faire ça, profite-en, moi j'aurais pas fait pareil.
Ou on fait glourps et on en reparle le soir. voir lorsqu'ils sont couchés.
On fait gloops et puis voilà, tout à fait. On refait le point en dehors de l'enfant, mais on va pas devant l'enfant mettre le conflit en place. Et puis il va pas mourir s'il a un bonbon de plus ou un yaourt de plus. L'important c'est que après éducativement, on se mette d'accord pour pouvoir petit
à petit sur le nombre de yaourts dont on a le droit tous les soirs.
Position commune, tout à fait.
Donc à Valérie, on peut lui dire voilà tout simplement qu'elle en parle à son petit garçon ensuite, qu'elle revienne dessus et même si elle a l'impression voilà qu'il n'écoute pas, en tout cas il l'entend.
Oui, il l'entend et ce n'est pas neutre du tout.
Alors il y a Claire Lise également qui nous a envoyé un message sur le site de Parenthèse Radio. Claire Lise nous écrit donc un long mail que je vous lis. Tous les enfants souffrent de la séparation de leurs parents. J'ose penser que j'aurais préféré que mes parents se séparent. J'ai grandi dans une famille a priori unie, bien sous tout rapport à l'extérieur, mais les disputes et les cris entre nos parents étaient notre quotidien. Je me souviens de mettre un oreiller sur les oreilles pour ne plus entendre ces cris qui m'agressaient littéralement. Ma chambre était pourtant éloignée du lieu de dispute. Je me suis toujours dit que ça n'était pas normal, même s'il n'y avait pas de violence physique. Aujourd'hui, malheureusement, nous dit Claire Lise, j'ai l'impression de retomber dans ce piège. Je me surprends à penser que je reproduis ce que j'ai détesté. Ça se répercute sur ma vie de couple, mais aussi dans l'éducation que je donne à mes trois enfants. Je n'arrive pas à faire autrement. Il y a beaucoup de choses dans le mail de Claire Lise, non ?
Beaucoup. Il y a deux choses différentes. Il y a d'abord un témoignage dont on a eu à peu près le même qui est repris dans notre ouvrage. Ce sont les enfants témoins de disputes au quotidien, de l'âge au moment où ils peuvent comprendre jusqu'à 15-18 ans qu'ils quittent la maison. Et ça, c'est insupportable. Ils disent j'aurais préféré que mes parents divorcent. On peut le comprendre. Et puis, il y a aussi cette espèce de répétition presque obligatoire alors qu'on a décidé de ne pas le faire, mais tout simplement parce que l'enfant, il se nourrit des apprentissages à partir de ce qu'il voit devant lui. Donc, s'il n'a pas d'autre image que des parents...
Il en fait un mode de communication.
Il va avoir du mal à apprendre à communiquer autrement. Et puis, surtout, il va être... Toujours, la relation à l'autre va toujours passer par le conflit. Donc, il ne fait que copier. On est tous dans la répétition. Et il est nécessaire, dans ces cas-là, comme cette auditrice, il est souvent nécessaire de passer par une thérapie, qui n'est pas forcément longue, mais en tout cas d'aller voir un thérapeute familial qui est spécialisé dans ce genre de symptômes, disons, qui se reproduit, pour faire le point. Et elle comprendrait très, très facilement.
Mais y aller seule ou y aller en couple ? Vous parlez thérapeute familial ?
Il faut demander, moi je ne suis pas du tout thérapeute familiale. Il faut demander à la thérapeute familiale. En principe, je crois que quand même, il est préférable de voir les deux. Mais il peut arriver que l'autre conjoint est tout à fait opposé à la consultation. Ça, c'est après la thérapeute familiale.
La thérapeute familiale, voilà. Elisabeth Darchy.
Bon, j'ai une formation de thérapeute de couple aussi et thérapeute familiale. C'est vrai que c'est une belle indication de faire le point en couple, lors des conflits, surtout qu'on a chacun des histoires qui font, on dit, des collusions. Et quand on fait le point à deux, c'est beaucoup plus rapide de penser à deux.
En même temps, il n'y a pas de hasard si elle a choisi ce monsieur qui lui-même doit très vite monter.
Souvent, on a des souffrances comme ça d'enfance où on tente de lutter contre et on reconnaît chez l'autre inconsciemment qu'il a des bonnes défenses ou des bonnes organisations pour tenter de lutter aussi contre quelque chose qui ressemble. C'est-à-dire on se reconnaît un peu inconsciemment. Et souvent, c'est une histoire un peu commune qu'on met en place. Et la répétition qui vient, elle vient surtout des émotions qui restent très vives et qui, quand la scène revient plus tard, quand on est adulte en couple, on dit qu'il y a des traces, les traces qu'on évoquait tout à l'heure, qui résonnent. Et c'est comme si on se remettait à vivre de la souffrance du passé qui s'actualise au présent. Donc là, c'est vrai que quand on a un petit travail qui nous mène vers une certaine lucidité de ces fonctionnements-là, on peut les apaiser plus rapidement, on peut maîtriser un petit peu plus la situation plutôt que de replonger dans des souffrances où on se retrouve comme une petite fille qui ne veut pas que l'autre crie et on crie encore plus fort que lui, ou alors on s'identifie à celui qui est dominant ou celui qui est victime et on dit répéter, c'est la répétition, ou ce qu'on appelle aussi dans les familles la confusion, confusion dans la parentalité confuse, dans la conjugalité confuse, où on remet en scène les scènes d'autrefois.
Ouais, mais ça veut dire qu'il faudrait forcément faire une thérapie avant même de se mettre en couple ?
Non, parce qu'on a cette belle capacité humaine là, qu'on évoquait chez les enfants, mais chez les adultes aussi, on a quand même socialisé nos pulsions, on a pensé quand on a donc élaboré des choses, et que même si les scènes reviennent, on en fait des expériences et on avance, et les couples se construisent au fur et à mesure des petites crises qui se succèdent, et puis ça se consolide. En général, majoritairement, bien sûr, on fait des expériences sans avoir besoin de thérapie. C'est quand on s'en sort pas, quand on s'en dégage pas, alors là, faut mieux consulter, c'est si aidant. Et quand le couple a compris que c'est pas, on consulte pas pour accuser l'un ou l'autre, mais c'est que parce qu'on vit, on semble vivre un véritable enfer, que là, on peut faire la démarche. C'est pour accuser l'autre, c'est pour aussi essayer de
d'avancer, de faire avancer le schmilblick, qui est une expression très connue en psychanalyse, faire avancer le schmilblick. Je vous arrête, Elisabeth Darchi, parce qu'on va devoir faire une petite pause. On vous retrouve juste après avec Rogerio qui nous appelle et qui voudrait témoigner. Simplement, trois livres pour enfants qui peuvent vous intéresser si le sujet vous concerne. Demain, il fera beau, de Dominique Kopp aux éditions Gauthier Langros. Une dispute et autres embrouilles de Valérie Imrejean aux éditions Petit Paul. Et puis Papa et Maman ne sont pas fâchés d'Aline de Pétigny. Vous savez, c'est les petits albums de Camille et c'est aux éditions Emma. Si vous-même vous connaissez des livres pour enfants qui traitent de ce sujet, n'hésitez pas à nous appeler 01 70 62 9000. Vous pouvez également nous appeler. Mais pour témoigner, pourquoi on m'enlève le micro? C'est pas juste, j'y ai droit. 01 70 62 9000.
Libre parole sur parenthèse, la première radio 100% talk famille. Gaël Renard vous écoute maintenant au 01 70 62 9000. 01 70 62 9000. Témoignez, réagissez dans Baby Boom. 01 70 62 9000 et sur parenthèseradio.fr.
Gérer les plus ou moins grosses disputes, gérer une éventuelle séparation lorsqu'on a des enfants, c'est le sujet de Baby Boom ce matin, un sujet sur lequel je vous propose de réagir si vous avez grandi donc avec des parents toujours en conflit, que vous vous souvenez pertinemment de ce que vous ressentiez à l'époque, ou alors si vous essayez vous, en tant qu'adulte, de ne pas vous disputer devant les enfants, mais lorsque cela arrive, vous leur demandez, vous vous demandez s'il faut revenir sur la scène avec eux, vous demandez les mots qu'il faut utiliser, ou alors si vous faites partie de ces couples qui envisagent de se séparer actuellement et que vous vous demandez comment l'expliquer aux enfants. N'hésitez pas à nous appeler 01 70 62 9000.
Appelez maintenant Gaël Renard. 01 70 62 9000. Parenthèse, la seule radio 100% talk famille.
Puis-je vous rappeler que vous pouvez également discuter entre internautes de ce sujet en participant au forum de Parenthèse Radio sur le www.parenthèseradio.fr. Avec nous et jusqu'à midi, Elisabeth Darchi, qui est auteur de La Séparation, un livre co-écrit avec Gérard Dechève dans la collection J'en parle avec mon enfant aux éditions Nathan. Elisabeth est psychologue et thérapeute familiale, et Yolande Ganac-Mayanob est également avec nous. Elle est co-auteur avec sa fille qui est journaliste à psychologie, des enfants. Les enfants parlent aux parents.
Chez Anne... Divorce, les enfants parlent aux parents, excusez-moi.
Ben oui, vous faites bien de me le dire. Divorce, les enfants parlent aux parents, voilà. chez Anne Carrière. Et vous êtes psychologue clinicienne. Je voudrais accueillir Rogerio. Bonjour Rogerio.
Oui, c'est Rogerio.
Oh mais arrêtez de nous contrarier tous. C'est fini, oui, c'est lundi. Donc Rogerio, pardon, vous habitez à Damary-les-Lys. Oui. En Seine-et-Marne, vous êtes papa de trois enfants, vous vouliez témoigner, Rogerio.
Oui, tout à fait. Sur le fait des disputes entre parents, donc avec mon ex-conjointe, on s'arrangeait toujours pour se disputer ou discuter de nos problèmes. En dehors des enfants, on fait en sorte qu'il ne soit jamais contact auditif ou autre de nos conflits.
Oui, et vous avez un portable qui sonne à côté de vous, Rogerio ?
Pas du tout, non.
Pas du tout. Bon, alors vous avez un marteau-piqueur dans votre téléphone.
Ah, d'accord, ben non, pourtant non.
C'est un tout petit marteau-piqueur dans le téléphone, mais on l'entend très très bien.
Écoutez, je suis désolée.
Mais non. Donc vous nous disiez qu'avec votre ex-femme, puisque vous êtes aujourd'hui séparés, vous avez toujours fait en sorte de ne pas faire subir vos disputes à vos enfants.
Tout à fait. Et le problème qui en résulte, c'est que le jour où on s'est séparés, où je suis parti de la maison, les enfants n'ont pas compris. Pour eux, tout se passait bien. Il n'y avait pas de conflit à la maison.
Ah oui.
C'est exactement ce que j'allais vous demander. C'est comment les enfants peuvent alors comprendre que vous vous séparez si vous vous êtes jamais disputé avec devant eux.
Exactement. Voilà. Voilà. Donc, en voulant les préserver, en fait, on
Voilà.
On leur a fait du mal en...
En voulant trop bien faire, vous les avez empêchés de comprendre le motif de la séparation. Ce qui n'est pas gravissime, mais c'est vrai que si les enfants assistent aux disputes des parents, ils se rendent compte pourquoi les parents séparent. Sinon, ils peuvent ne pas comprendre, c'est ce qui s'est passé dans ces cas-là.
Oui.
Alors là, il est nécessaire de leur expliquer que vous ne vous êtes pas disputé devant eux, mais qu'il y avait un moment que vous vous rendiez compte avec votre femme que ça ne pouvait pas continuer comme ça, que vous aviez trop de points de désaccord, etc. Mmh.
En même temps, on peut aussi se séparer et ne jamais se disputer. On peut aussi, voilà, il y a des couples qui disent on aurait bien aimé se disputer, mais voilà, des couples qui s'ennuient, qui décident de se séparer parce qu'effectivement, il se passe plus grand chose, mais même pas des disputes.
C'est difficile pour les enfants de comprendre. Mmh.
Moi, ce que je voudrais ajouter, en effet,
Elisabeth Darchy,
oui. Ce que je voudrais ajouter, c'est vraiment en effet parler avec son enfant, parce que qu'on se dispute devant eux ou pas devant eux, l'important, c'est que quand il y a quelque chose, un projet qui se met en route, il faut préparer les enfants. Hein, préparer les enfants, on peut pas d'un seul coup leur désorganiser un mode de vie alors qu'on en a pas parlé, qu'on les a pas préparés.
Oui.
Peut-être simplement souligner que bon, il y avait un bel amour et puis que l'amour, bah, il s'effrite. Autant l'amour parent-enfant, lui, il reste à vie, autant l'amour dans un couple, eh ben, ça peut se transformer. On peut montrer en effet que des couples se séparent ailleurs. C'est l'occasion aussi d'apprendre la vie aux enfants. Hein.
Mmh.
Donc là, les préparer et en parler, c'est peut-être important. On n'a pas besoin non plus forcément de se disputer devant eux,
oui.
En tout cas en parler. Hein.
Parce qu'on nous dit tellement aujourd'hui que les enfants sentent tout, que même si les choses ne sont pas dites, ils ressentent le non-dit, ils ressentent l'attention. Donc c'est alors, aussi étonnant, oui. Lorsque Rogerio dit bah voilà, pour eux le monde c'est un peu écroulé, s'y attendaient pas du tout.
Bah, c'est-à-dire que des fois ils ressentent, on dit inconsciemment, et que consciemment les parents par exemple des fois font tout pour que ça soit pas conscient. Alors en fin de compte c'est à l'intérieur d'eux, quelque part ils savent quelque chose, mais ça leur tombe quand même comme le ciel leur tomberait sur la tête, puisque consciemment on a tout fait par exemple des fois pour estomper les conflits, pour rendre les choses idéales, et bien il y a une espèce de contradiction peut-être parfois aussi avec ce qu'ils sentent et ce qu'ils comprennent. Hein. Donc les mots va accompagner les choses et va moins, on dit, cliver ou couper en deux des ressentis et des compréhensions.
Mmh.
Par contre, ce qui est Rogerio,
oui.
Pardon, excusez-moi. Pour ce qui est de leur parler, effectivement, leur expliquer que bon, ça ne va pas et ainsi de suite, vous n'avez pas l'impression que dans ces cas-là, on leur donne... une importance qui fait que à bout d'un moment ils vont peut-être se sentir responsables de ne pas avoir fait les bonnes choses pour que les parents ne se séparent pas.
Ah oui, c'est important. C'est important de leur dire que surtout ils ne sont pas responsables. Je pense que là, tout le monde est bien d'accord là-dessus. C'est que leur dire qu'ils ne sont pas responsables, mais il ne faut pas leur donner. Non, mais, de toute façon, inconsciemment, même consciemment, de toute façon, l'enfant a pense que ça vient de lui, parce que pour lui, surtout quand il est petit, les adultes sont parfaits. Donc si quelque chose ne va pas, c'est certes, quand il est grondé, par exemple, qu'il a 3 ans, 4 ans, même s'il rouspète contre ses parents, il pense au fond de lui que ses parents ont raison. C'est pour ça que les enfants maltraités acceptent la maltraitance jusqu'à un âge un petit peu grand, parce qu'ils pensent que c'est de leur faute, que c'est eux qu'ils méritent. Alors de toute façon, vous n'enlèverez pas cette culpabilité, mais il faut en parler de ça. C'est en mettant des mots en leur disant « ce n'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien ». Puis attention, tous les mots que l'on dit quand on se dispute font quand même écho à cette peur de l'enfant. Des couples qui se disputent, ils peuvent être amenés à dire « c'est toi qui as voulu ce gamin, moi j'en voulais pas », etc.
Oui.
Il y a des mots très durs comme ça qu'il faut récupérer après dans des moments de calme.
On peut revenir dessus en disant ça a dépassé
l'enfant. T'es en colère, je dis n'importe quoi, tu vois bien toi quand t'es en colère, tu te mets dans une pièce, tu cries, tu dis des bêtises, des mots grossiers.
T'as bien dit que tu voulais mettre ton petit frère à la poubelle, j'ai le droit de dire...
Voilà. Alors que on le pense pas vraiment, et puis on en arrive à dire des choses terribles. Mmh. Bon, ça, il faut le reprendre, parce que l'enfant qui entend des choses comme ça peut beaucoup souffrir.
Yolande, dans votre livre, il y a le témoignage d'une petite Lisa qui a 8 ans, qui dit « Moi, si j'avais un conseil à donner aux parents séparés, c'est de continuer à être autant qu'avant avec leur enfant.
Oui.
Ce n'est pas grave s'ils sont un peu seuls avec nous, je veux dire sans un nouvel amoureux. On peut même les aider à être moins malheureux, c'est sûr, pas besoin d'un autre adulte pour ça. »
Et oui, parce que les enfants aimeraient tellement que leurs parents soient heureux. La petite, elle avait vu ses parents souffrir, sa maman souffrir, et elle pensait qu'elle pouvait peut-être, elle, l'aimer tellement qu'elle remplacerait quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement la rendre malheureuse de nouveau. Et puis,
mais ça, c'est pas son rôle.
Non, bien sûr que non, bien sûr que non.
C'est le témoignage. On voit des enfants qui essaient de protéger, alors lorsqu'ils ont l'impression qu'un des parents souffre le plus que l'autre dans une séparation, parce qu'il n'a pas trouvé de nouvel amoureux,
Oui. Oui, ça peut arriver, mais c'est là le rôle des parents d'expliquer qu'un enfant n'a pas du tout le même rôle qu'un conjoint, qu'un mari, qu'une femme, et qu'on aime, de toute façon, ça reflète aussi de la part de la petite fille, la peur que sa maman parte avec quelqu'un d'autre et ne l'aime plus, quelqu'un d'autre, c'est là et ne l'aime plus, elle.
Voilà. Elisabeth Darchy. Oui,
c'est là qu'il faut, en effet, que l'enfant différencie progressivement. Qu'est-ce que c'est que l'amour d'un parent pour un enfant et l'amour d'un couple, du parent pour son couple? J'avais écrit aussi un livre là qui s'appelait 100% couple, 100% parent, qui montre en effet que l'un n'exclut pas l'autre. Et on sait qu'en psychologie, c'est même structurant quand un enfant perçoit que le parent peut avoir un amour extérieur à lui qui est d'une forme différente. C'est exactement comme si, par exemple, s'il y avait un petit frère ou une petite sœur, il peut aimer aussi une fratrie sans perdre 100% l'amour pour son enfant. Mmh. On dit que c'est même très important que l'enfant puisse sentir qu'il n'est pas le centre
Voilà. du monde, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il se sent responsable de tout aussi. Voilà. Merci. Écoutez, si vous voulez encore intervenir, il va falloir le faire après la pause. D'accord. C'est possible pour vous? Je sais que vous avez des consultations, peut-être. Elisabeth, Yolande?
Moi, je dois vous quitter, là, maintenant. Donc, je pense que l'émission va se poursuivre.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
De choses. Je vous remercie beaucoup, Gaëlle. Merci à tout le monde.
À
et
très
à une
bientôt.
Prochaine fois.
À une prochaine fois. Au revoir.
Merci aussi.